mensonge histoire de l'identité d'Israël. C'est pas qu'il doute, il est perplexe. Parce que c'est la première fois que cette promesse apparaît dans l'histoire. Alors je crois que la perplexité peut être définie comme une vertu, et une vertu qui implique cette vertu d'humilité. C'est normal qu'un juif soit perplexe dès qu'il découvre que son histoire a un sens. Parce que le sens de cette histoire est tellement vertigineux que s'il n'est pas perplexe, c'est qu'il est orgueilleux, ou qu'il ne comprend rien. Je pense que c'est clair. Mais parler du doute, c'est là, si vous voulez, un glissement de concept. Et si on a bien compris ce que Descartes, enfin le philosophe de la méthode du doute, entend par là. Et je dirais, ce que j'ai un peu essayé de comprendre à ce sujet, c'est que le doute est une expérience secondarisée, tardive, très sophistiquée, qui vient après une expérience de connaissance dont on a été déçu. Alors que la perplexité est au commencement de la pensée. Pour comprendre l'expérience de la perplexité, il faut observer attentivement les enfants qui viennent de naître. Ils sont perplexes. Et pour comprendre le doute, eh bien, il faut observer attentivement les vieillards déçus. Et ça n'a rien à voir. Vous comprenez quoi ? Bon, je referme la parenthèse. Ceci pour dire que, pour revenir à l'analyse précédente, que dans le temps des Hébreux, il n'y avait pas de place pour le doute, même s'il y avait perplexité. Pourquoi ? Parce que c'était le temps de révélation, de dévoilement. Quelle est la raison directe de cet arrêt de l'événement prophétique en tant qu'expérience ? Et nous, juifs, depuis ce temps-là, sommes reliés par la foi à ce qu'était la connaissance des Hébreux. Je pense que c'est suffisamment clair. Okay ? Quand nous lisons ce livre, qui était parole pour les Hébreux, eh bien, nous avons d'abord un postulat, et nous avons des raisons d'avoir ce postulat, parce que nous avons une mémoire de notre filiation hébraïque. Et ça passe pas, encore une fois, par la raison, mais par la mémoire. Nous avons le postulat que ce texte parle vraiment de ce que Dieu a dit aux hommes à travers les Hébreux. C'est le postulat de notre lecture, mais c'est un postulat de médiation de foi. Est-ce que c'est clair ? Et ensuite, nous étudions pour savoir en quoi nous croyons, et pas l'inverse. J'ai souvent cité cette différence dangereuse de méthode. Lorsque on rencontre la Bible comme un événement culturel, c'est ce que nous appelons dans notre jargon traditionnel les sadducéens. Et que on sait, ou on ne sait pas, mais enfin, on devine, étant donné que le monde entier lit la Bible dans toutes les langues, que ça doit être un événement culturel important. On est très fiers de l'avoir dans notre bibliothèque juive, la Bible. Alors on étudie la Bible pour essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Et chacun comprend comme il peut, avec les dictionnaires qu'il peut, et les traductions qu'il peut, et il croit dans ce qu'il comprend. Catastrophe. Vous avez compris le problème ? Alors que la méthode traditionnelle, c'est d'abord de croire que c'est la vérité. Et pour ça, il faut procéder d'une histoire, d'une mémoire, les Juifs. Et alors ensuite, on étudie pour essayer de comprendre ce en quoi on croit. Et l'attitude est systématiquement différente et le résultat n'a rien à voir. Je pense que c'est clair. Bon. Alors, une minute. La question, c'est au moins comment décrire l'événement de cette fin du temps hébraïque et le commencement du temps du judaïsme, du commencement du temps des Juifs. Le thème traditionnel, nous avions commencé à l'étudier avec M. Gorvin il y a 35 ans aussi, c'est l'événement du livre d'Esther et de l'époque de la reine Esther, okay, où tout ce qui était dévoilé commence par se cacher. Esther, ça veut dire se cacher. Okay. Et en particulier le fait que le nom de Dieu n'apparaît pas de façon dévoilée dans le livre d'Esther, c'est la fin de la révélation. Et pour bien indiquer que le livre d'Esther fait partie du canon biblique, diraient les exégètes, de la révélation, la législation de la halakha impose les mêmes règles pour l'écriture et la lecture du livre d'Esther que pour l'écriture et la lecture du livre de la Torah. Vous avez vu les Megillotes sur le parchemin. Bon. Je crois qu'on peut, c'est un sujet très vaste, mais on peut proposer deux explications de description au moins. La première, c'est la dispersion, purement et simplement. Les tribus d'Israël ont commencé déjà notablement à être dispersés, et en particulier 10 d'entre elles sont déjà, on ne sait plus. C'est-à-dire le véhicule de réception du fait de révélation est détraqué par la dispersion. Je vous donne une image que je donne à ce sujet habituellement. Dans ma jeunesse, il y a eu les premiers postes de TSF, comme on disait. Aujourd'hui, il y a des transistors, mais je crois que c'est à peu près la même chose, si un spécialiste nous dira. Imaginons un poste récepteur de l'émission de radio qui doit avoir 12 lampes pour que ça fonctionne. 10 d'entre elles sont détraquées. Alors l'émission est là, mais on n'entend plus, parce que le poste et le récepteur est détraqué. Je crois que ça marche aussi avec les transistors. J'ai compris le problème. C'est-à-dire 10 des 12 tribus d'Israël ne sont plus en mesure de participer à la maralechet, on dirait la structure de réception. Alors bien que l'émission soit toujours là, elle n'est entendue que faiblement, de très loin à l'échelle individuelle, par les aides d'exception qui ont le droit à connaître. Mais la Nevoa, c'était le dévoilement objectif pour Israël en tant que post-récepteur intact. J'ai compris le problème. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est très corollaire, c'est que est relié à notre sujet, c'est la fin de l'époque de l'existence de la nation d'Israël comme telle sur sa terre. Puisque, comme vous le savez, l'événement de prophétie est relié étroitement à la terre d'Israël, c'est là que ça se passe, ou concerne la terre d'Israël et pas autre chose. Par exemple, Abraham était au Kasdim. Alors Dieu se révèle à lui au Kasdim, mais pour lui dire quoi? Quitte au Kasdim et va à l'endroit qui s'appellera Jérusalem, après la vache de Pavé. Remarquez, ça commence à comment? Lech Lecha, va là-bas et la vache de Pavé. De la même manière, la révélation à Moïse en Égypte. Le temps est arrivé, direction le Sion, et là-bas, vous verrez ce qui se passe. C'est clair. Et ça, c'est tout un chapitre de Judas Lévi qui discute toutes les objections éventuelles sur ce principe. La prophétie n'est possible que sur la terre d'Israël. En étudiant tous les cas où il y a eu quand même prophétie en dehors, il répond de façon très claire en analysant chaque exemple, ces prophéties qu'il y a eu en dehors ne concernaient que Eretz Israël. Ça va jusque-là. Bien. Et alors je crois qu'il faut bien comprendre ce drame que le Rav nous analyse, c'est le fait que dans le temps des Juifs, n'est resté de façon dévoilée, visible, pour définir l'identité d'Israël, que la dimension spirituelle. La relation à la dimension de la collectivité nationale en tant que telle, elle était réelle, virtuelle, mystique. Et à partir de l'émancipation, elle est devenue mythique. Et puis subitement elle éclate, subitement elle est là. Et subitement elle est là en opposition avec l'autre définition. Voilà le problème qui est indiqué dans cette phrase. C'est clair jusque-là? Et elle n'arrive pas à comprendre, a ajouté le Rav, en fin de phrase, qu'elle n'est qu'une étape de restauration du véhicule de l'essentiel qui est la fonction de Yehuda, du Machar ben David. Vous avez compris le problème? Et tant que le véhicule contrarie la lumière qu'il devrait contenir, il y a encore obscurité. Il y a peut-être obscurité pire. Une minute, monsieur avait demandé avant. Vous avez une question?
Non, en référence à ce que vous disiez tout à l'heure, cette expression du doute qui est même les Juifs, je crois qu'elle se justifie à ses propres yeux par un refus ou une défiance de l'idolâtrie, c'est-à-dire des effets pernicieux d'une foi trop crédule ou trop aveugle. Il est bon de douter, se dit-on. Surtout quand on est juif, même quand on ne l'est pas, on se rend compte que les premiers rois d'Israël, justement, ont été idolâtres, n'est-ce pas? Donc, c'est
espèce... Là, il y a peut-être un mélange de deux sujets.
Il y a un décrochement dont je suis très conscient, mais qui est précisément ce sur quoi on le choque toujours.
Je dirais que dans le vocabulaire hébreu, le doute est un mérite que lorsqu'on doute de son mérite. Que lorsqu'on doute de son niveau de mérite. Mais douter de soi, pour Israël, c'est un autre problème. Et, si vous voulez, c'est au niveau des valeurs morales qu'il faudrait reprendre votre analyse. C'est-à-dire que, je voudrais reprendre quand même, pour que ce soit plus clair, l'analyse de la notion de perplexité opposée à celle de doute. Ne pas être perplexe lorsqu'on commence à découvrir le caractère énorme, gigantesque, en acquis, des perspectives de l'histoire d'Israël dès qu'elle est prise au sérieux en relation avec l'histoire universelle, c'est de l'orgueil. Vous comprenez? Idolâtrie, c'est autre chose. Vous pouvez parler, mais c'est une façon de parler, de l'idolâtrie de soi. Okay? Et mais c'est ça l'orgueil, l'idolâtrie de soi. C'est au niveau des valeurs morales que ça se passe. Et alors que la perplexité est une vertu, Le doute, c'est le signe d'une maladie grave, lorsque le doute porte sur sa propre identité. Est-ce que c'est bien clair, ce que je dis là? Donc, c'est vraiment une conduite intellectuelle, spirituelle, très différente. Reprenez les analyses de Descartes dès le début du discours de la méthode, ou des méditations métaphysiques. Il nous dit très clairement, étant déçu d'une connaissance antérieure, il la remet en question. Et c'est donc bien une expérience seconde. Okay. Mais il nous a dit tout de suite, de telle sorte de pouvoir trouver la première vérité évidente qui récupérera les autres, le critère. Okay. Et se référer, si vous voulez, au doute comme vertu, ça fait partie de toute cette inversion des valeurs du temps contemporain, où c'est la mort qui la vit, où c'est le fait d'être tordu qui est droit, etc. Vous comprenez, qui est très, très gênant lorsque ça fait irruption dans la lecture de la Bible. Je vais vous donner un exemple. La Bible qui dit que Dieu existe, elle dit que cela, il faut la lire comme si c'était un livre écrit par un athée, par exemple. Vous comprenez, il y a là quelque chose de l'ordre de la décomposition intellectuelle, spirituelle.
Le texte
de Spinoza sur le prophète, est-ce qu'il se rapporte
à quel texte vous pensez?
Dans l'éthique? Oui. Dans le traité théologico-politique. Oui. Le Tractatus, quoi. Oui. Vous pensez à sa définition de...
Quand il nie les prophètes en analysant par la Bible, la manière dont il est écrit, la manière dont Dieu s'adresse aux prophètes, comment il est entendu.
Attendez, pour le moment, vous n'avez parlé qu'en introduction de ce que vous devez dire. Est-ce que vous pensez au fait, à la thèse de Spinoza, selon laquelle la prophétie des Hébreux passait par l'imagination, c'est à ça que vous pensez, Ken? Okay. Peut-être nous allons en parler un petit peu. Ou bien d'Annevi, Madame. Formellement, c'est absolument exact. Ça veut dire, tant qu'on est capable que d'intelligence, et pour être prophète, il faut être premièrement capable d'intelligence. C'est évident, Ken, Raham. Rappelle-nous, Hacham, Gibor, Anav, Achir et Anas. Okay. Vous vous rappelez le séminaire de Michel Cohen? Et qu'on n'est pas capable d'imagination, alors on ne peut pas être prophète. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'opposer l'imagination qui ne serait qu'imaginative à la raison qui ne serait que rationnelle. Il s'agit d'une capacité intellectuelle où, premièrement, on est Hacham, capable de connaissances absolues, lucides, précise, mais si on n'est pas capable d'imagination, merci, alors on ne peut pas être prophète, on est sage, mais pas navi. Et c'est là l'erreur de Spinoza, enfin l'erreur de Spinoza. Spinoza était très intelligent, il ne faisait pas des erreurs, il savait ce qu'il faisait. Il lui fallait démontrer que la capacité prophétique à travers les évangiles était supérieure à la capacité prophétique à travers les prophètes de l'Ancien Testament, si vous avez lu le Tractatus jusqu'au bout. Okay. C'est un des livres les plus antisémites qu'un grand philosophe a pu écrire.
C'est extraordinaire.
Extraordinaire, exactement. Et surtout en milieu de persécution chrétienne anti-juive. Okay. Puis avec une autre légende. C'est pas que j'aime pas Spinoza, je serais obligé de vous dire que je l'ai jamais lu parce que c'est interdit de lire Spinoza. Comment je vous en parle, j'en sais rien. Mais tu te rappelles de... Et alors, j'ai dû passer un examen dessus. Et alors, attendez, que je me raccroche. Et l'autre légende de Spinoza, c'est de parler des perspectives universalistes, universelles de la pensée de Spinoza. Si vous saviez à quel point ça fait partie d'un humanisme ponctuellement très précis et très, mais tout de même, comment dire, très, très particulier, qui était celui des Sauciniens. Si vous savez quel est l'univers intellectuel des Sauciniens de Hollande, vous saurez quel est l'universel de Spinoza. Okay. Et qu'il était imbriqué dans des querelles de société entre la communauté juive et telle ou telle hérésie protestante qu'il préférait aux autres. Okay. Et comme c'était un très grand philosophe, une capacité philosophique colossale, on croit qu'il s'agit d'une pensée universaliste, universelle. Pour être spinoziste, à la limite, il y en a un seul, c'est Spinoza lui-même. Okay.
Non, c'est des Sauciniens aussi, c'est possible. Et il y a eu même tous les juifs de la communauté d'Amsterdam s'entendaient assez bien avec la gauche protestante.
Sur ce point, je parlais de l'autre légende, c'est-à-dire la pensée universelle. Et de la même manière, si vous voulez, que il y a une légende beaucoup plus globale, c'est que la pensée grecque est universelle. Elle est premièrement grecque, et elle passe à travers la grammaire grecque. Et il y a là le cas privilégié d'une très belle langue, c'est vraiment ce que dit Talmud d'ailleurs, la beauté de Japheth, une très très belle langue, et qui a une telle force d'expression qu'on croit que c'est la pensée en général qui s'exprime à travers elle. C'est la pensée de la psyché grecque qui s'exprime à travers la grammaire grecque. Attendez, on passe trop chaud à la fois, je vais aller un peu lentement. Okay, je reviens un peu sur ce point qui me semble extrêmement important. Il y a un chapitre entier du Rav Kook sur ce problème, qui est dans Oroth, ce n'est pas le livre-là, mais je l'ai là-bas, peut-être que demain je vous le lirai. Hein? Demain, ça veut dire dimanche. Okay. Le prochain cours, je voulais dire. Rappelez-moi, si vous voulez, c'est le chapitre intitulé « Chacham Adif Minabi ». Et c'est le fait que... Mais je crois que nous allons parler au séminaire sur la prophétie. Okay. Non, c'est un texte à côté. Ça fait partie du même sujet. C'est le fait que le prophète doit avoir une capacité d'imagination colossale pour arriver à faire identifier à celui à qui il parle dans ce monde-ci de quoi il parle de la sagesse d'en haut. Et c'est pourquoi les prophètes s'expriment par image. Mais c'est interdit d'être intelligent pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les images. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une expression purement imaginative dans le sens négatif du terme. Si vous commencez à faire assez sérieusement de l'exégèse de texte, d'ailleurs vous en faites souvent avec Michel Prince, vous devez subodorer, deviner de quelle capacité intellectuelle, rationnelle, précise il faut disposer pour arriver à décrypter à la lettre de quoi le prophète veut parler dans son image. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, il y a, je crois, un glissement de concept intentionnel chez Spinoza. Il dit que c'est l'imagination qui parle à travers les prophètes hébreux et que c'est la raison qui parle à travers le Christ. Il est visé d'être attaqué jusqu'au bout. Et oui, vous avez une question. Ah oui. Il manque la troisième. Vous avez raison. Absolument. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur les deux premières étapes, on peut pratiquement être tous d'accord. Il y a eu d'abord le temps des Hébreux, ensuite il y a le temps des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc 2000 et quelques centaines d'années, c'est une période de 400 ans de transition entre le temps des Hébreux et le temps des Juifs. Il y avait le temps des Judéens, qui étaient les derniers Hébreux se préparant à être Juifs. Et c'est que l'Hébreu est devenu Juif en descendant en exil. Et on pourrait passer des heures, il faudrait, pour analyser la typologie juive par rapport à la typologie hébraïque. J'ai donné qu'une, deux petites indications. L'occultation du fait de prophétie. Je dirais peut-être de cette manière, le génie juif est considérable. L'histoire juive a été une histoire héroïque. Excusez-moi si je mets ça au passé, mais c'est pour la commodité de l'exposé. Une histoire de résistance héroïque, comme Fichel Krog dit, de vraie résistance dans la fidélité. Il le dit au moins formellement, parce que c'est pas toujours, il le dit lui-même, ce qu'il y a dans le contenu de cette fidélité, mais dans le comportement formel. Et c'est une histoire géniale, parce qu'elle a exprimé tous les génies humains des paysages que nous avons traversés à la manière juive. Je ne connais pas d'autre société qui a été capable d'avoir un folklore aussi universel, de l'exil, je parle. Okay, ce que nous appelons en langage de la sociologie les juiveries. Et chacune des juiveries, qu'elles soient judéo-hongroises, du nord ou du sud, judéo-roumaines, judéo-yéménites, judéo-alsaciennes, lorraines, tout ce que vous voudrez, judéo-marseillaises, galloises, okay, c'est une richesse culturelle humaine colossale. Et dans une histoire concrète d'héroïsme super. Et ce génie juif, comme j'en parle, comme d'ailleurs toute société a son génie, dans le sens simple, est incontestable, indéniable et vertigineux. Il suffit de faire la statistique des prix Nobel. C'est un sujet sur lequel c'est dangereux de réfléchir. Parce que on risque de se demander qu'est-ce que c'est que cette race. Les Juifs. Je ne parle que des Juifs, au niveau juif. la proportion statistique de la population juive et la population mondiale est telle, la différence de proportion, que quelles que soient les explications sociologiques, historicistes, matérialistes, ce que vous voudrez, le phénomène reste. Ça reste mystérieux. Okay? C'est pourquoi c'est un sujet auquel il n'est pas recommandé de parler en public. Okay? Parce que dès qu'on entend ça, il y a combien de juifs dans le monde et quand il y a le prix Nobel, incompris. Bon, on ne comprend pas. Okay? Les juifs. Et pas seulement ça. Tous les rabbins sont juifs. Et je vais vous dire ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'un rabbin? C'est un juif qui sait lire la Bible des Hébreux. Et pour ça, il ne faut pas être juif. Vous comprenez pourquoi tous les rabbins sont juifs? Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que des juifs qui sont rabbins. Et sans compter tout le reste. Bon. Et donc, et pour reformuler cela, le génie juif est indéniable. Et c'est rien à côté du génie hébraïque. Voilà ce que je vous dis. C'est rien, plus, je ne sais à côté du génie hébraïque. Le génie hébraïque a secoué l'histoire entière. Du côté de l'Occident, vous avez toute cette énorme humanité chrétienne à travers 2000 ans qui, dans sa bonne foi propre, dans sa mauvaise foi propre, c'est un autre sujet, à sa manière, et ça, c'est son problème, se considère comme l'héritière des Juifs, non, des Hébreux. Est-ce que c'est clair, justement? Et en Orient, ce phénomène énorme de l'islam, qui, dans un autre style et à sa manière, non seulement se considère comme les héritiers des patriarches hébreux, et pas à la manière spirituelle des chrétiens, à la manière directe, par Ishmaël, okay, mais les héritiers des prophètes hébreux et des rois d'Israël. Si vous entrez dans la prétention à l'islam de l'islam, et l'annexion de l'hébraïsme par l'islam, et ça c'est tout l'autre côté du monde, l'Orient, sans compter tous les courants culturels énormes de tous les humanismes possibles et imaginables qui dérivent de façon plus ou moins clandestine des intuitions hébraïques. Et il y aurait toute une encyclopédie à réécrire là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord que le phénomène hébreu a été un phénomène d'une autre dimension que le phénomène juif, qui lui-même est déjà colossal. Voilà ce qui se passe entre le temps hébraïque et le temps juif, en relation à... ces deux dimensions que j'ai indiquées, de description, la dispersion, le décollage, comment dire, déconnectage, nituk, comment on dit nituk, natek, séparation, c'est plus que ça.
La rajure.
Oui, du peuple et de sa terre, la prophétie s'arrête. Et surtout, l'évanouissement de l'entité Joseph, de l'entité collective de la nation comme telle, d'avoir le béné Israël. À qui s'adresse la révélation? Au clan Israël, à travers tel ou tel prophète. Mais elle ne s'adresse pas à ce monsieur prophète, elle s'adresse à Israël, en tant que nation. Et donc, il y a 2000 ans et plus, l'hébreu est devenu juif. La troisième étape, et c'est très simple à comprendre, c'est que de notre temps, le juif redevient hébreu, et ça s'appelle Israël. Et c'est là que ça fait contestation. Et à partir de là, il y a contestation. Mais en tout cas, la désignation est très claire. Et je vous parle sur cette phrase en tant qu'israélien. C'est le grand drame de notre époque. Ça veut dire que, alors qu'il y a 2000 ans, les Hébreux sont devenus des Juifs, de notre temps, les Juifs redeviennent les Hébreux et ça s'appelle Israël. C'est ça qui est en train de se faire. La restauration, si vous voulez, de la nation hébraïque comme telle sur sa terre. Dans la contestation universelle, celle des Juifs y compris, en grande partie, mais lisez la Bible et vous saurez que ça a toujours été comme ça. Donc ça ne nous impressionne pas. Les contestations, ça nous impressionne. Ce qui nous impressionne et qui nous désole, c'est... Enfin, c'est ce que dit le Rav et qu'on va continuer à dire.
Une question, alors après, peut-être...
Non, peut-être tout de suite, si elle est sur le sujet. Oui.
Ma question, aujourd'hui, c'est ma question, c'est que vous pouvez parler de voir ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une question
du doute. Ah, tu reviens au doute, oui.
Or, ma question sur la mer, c'est une question sur le doute.
Comment? À quoi tu fais allusion? Au fait que le père de David est mort en l'engendrant? Ah, tu savais même pas ça? J'enlève.
Hein?
Qui, le père de David? Dans quel chapitre? Oui, enfin, dans quel chapitre?
il y avait là cette doute.
Ah, à cause de Ruth. Bon, en tout cas, je ne retrouve pas dans ma mémoire. Il faudrait que nous ayons la référence. Je ne peux pas répondre parce que je ne vois pas le texte. Oui. Bon, admettons, mais... Bon, alors, je dirais de cette manière. Lorsqu'il y a expérience de doute d'identité, alors il y a expérience de doute d'identité. Et ériger l'expérience de doute d'identité en vertu, c'est ça qui est la catastrophe culturelle du monde juif contemporain. Et c'est surtout cela que je voulais expliquer. Je crois que nous aurions intérêt à réfléchir là-dessus, juste une minute, de substituer la notion de perplexité, qui est une grande valeur de dignité, à la notion de doute, qui est le signe d'une maladie d'identité, d'une névrose d'identité. En ce qui concerne l'identité d'Israël, lorsqu'un juif se demande, et je crois, si vous m'excusez de reprendre un petit panorama avant de vous donner la parole, je crois que ça a été surtout dans l'ère culturelle des Ashkenazis. Parce qu'en tant que juif, ils étaient confrontés à une civilisation extérieure qui leur disputait leur identité Israël. Alors que ça n'a pas été l'expérience de l'identité sfarade. L'identité sfarade, c'est les juifs chez Ishmaël. Jamais Ishmaël n'a nié qu'Israël soit Israël, que les juifs soient Israël. Seulement, il lui refuse place sur terre. Okay. La problématique avec Ishmaël est d'un tout autre sens. Si vous voulez, pour moi, le symbole de cette difficulté d'être du juif ashkénaz en tant qu'il est le juif de la civilisation chrétienne, c'est Kafka. Okay. Mais il n'y a pas de Kafka à Sfarad, ça n'existe pas. Okay. Vous comprenez le... Sauf quand il s'agit d'un Sfarad qui est venu rejoindre les ashkénazis. Là, il reprend la problématique des Ashkenazis. Et il a gardé un peu des parfums de l'Orient, mais c'est quand même devenu un Ashkenaz. Vous comprenez le pays ? Merci beaucoup. Voilà. Et je crois qu'il faudrait bien réfléchir là-dessus. C'est que toute cette mise en doute de soi doit être rapportée à un écran de la contestation chrétienne de l'identité d'Israël chez les Juifs. Je vais vous donner encore un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, je voulais peut-être citer il y a quelques années. La controverse vis-à-vis de la théologie chrétienne n'a jamais été conduite par les Ashkenazis, toujours par les Sfaradim. Vous avez remarqué cela ? Et d'où cela vient ? C'est que les Sfaradim procèdent d'un univers culturel islamique qui ne met pas en doute l'identité juive des Juifs, qui l'écrase, qui l'opprime, mais qui ne la met pas en doute. Et donc, tout se passe comme si c'était trop dangereux pour la conscience ashkénaze d'entrer dans ce problème vis-à-vis du chrétien dominant, de savoir qui est Israël. Trop dangereux. Alors ce problème, il y a un blackout dans tout le monde culturel ashkénaze traditionnel, il n'y a pas allusion à ce problème. Vous pouvez lire en l'argent en travers, une minute. Tout le Maharal, qui était confronté avec l'Europe chrétienne de la Renaissance, qui était ami personnel de grands hommes de la Renaissance, il n'y a pas une allusion. Pour ceux qui savent lire les sources du Maharal, c'est plein, mais c'est en filigrane. Il n'y a pas une allusion à la problématique judéo-chrétienne. Ben, alors qu'il était en plein dedans et il vivait cet écartèlement. Okay. Ce n'est que dans le temps très récent que chez des juifs assimilés du monde ashkénaz, on se préoccupe de judéo-chrétiens, mais c'est que des assimilés, c'est-à-dire ceux qui sont complètement coupés de la culture traditionnelle. Même s'ils sont théologiens, je pense que c'est clair ce que je veux dire. Alors que le Sfarad est complètement décontracté vis-à-vis de ce problème. Imaginons un Talmid Chacham des pays d'islam parlant du christianisme à l'âge de mon grand-père, au temps de mon grand-père. Oui, oui, nous avons entendu parler d'une religion exotique, complètement exotique, bien, mais complètement décontracté. Et puis, par exemple, la première fois que j'ai rencontré un curé, me dire, moi, à moi, juif, sfarade, de l'islam, que ça peut être Israël, ça n'existe pas. Vous comprenez le problème. Et alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? C'est un problème qui nous a été imposé par notre rencontre de l'Occident et que nous avons essayé de comprendre dans nos sources, dans nos textes, et pas du tout dans la problématique chrétienne elle-même. Vous comprenez ? Donc, un Kafka sfarade, ça ne peut pas exister. Parce que, qui c'est Kafka ? C'est quelqu'un qui a entendu toute sa vie, je le symbolise, l'Européen lui dire... Je vais vous rappeler une formule que j'ai peut-être employée une fois. Ton livre, mais pas toi. Ton Dieu, mais pas toi. Ta ville, mais pas toi. Toi, mais pas toi, parce que toi, c'est moi et toi, c'est toi. C'était ça pendant 2000 ans. Vous avez compris le problème. Alors imaginez la réaction de Kafka. Il se demande dans quel labyrinthe je suis. Est-ce que je suis moi? Vous avez compris? Bien, vous avez fini une question.
Vous avez oublié
tous les épigrammes
d'Amsterdam
qui ont été en milieu
chrétien. Une minute, j'irai bien. N'est-ce pas ça qu'on appelle le shéol?
Exactement. Cette question, peut-être tu n'es pas toi, c'est ça l'enfer. Shéol, 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 shéol. Eh bien justement, quand je fais allusion au Sfaradim qui adopte la problématique ashkénaze, c'est évident que les Sfaradim de Londres et pas seulement d'Amsterdam, ou les Sfaradim de New York aujourd'hui et de Paris aujourd'hui, ont le même drame de maralisme inversé 13 fois. Et par exemple, non, je ne vais pas donner de noms contemporains, simplement je vais vous les citer parce que ce sont des amis personnels, indépendamment du rêve. Prenez Memi ou Mizrahi, avec des nuances d'ailleurs. Ce sont des Sfaradim, des prunes. Ils sont d'origine Sfarad et ils ont une problématique ashkénaze. Alors on a entendu Kafka dans Memi et du super Kafka dans Mizrahi. Vous comprenez le problème? C'est ça qui varie. Et qui mange du couscous, ou qui mange du gefilte-fish, ça c'est une autre chose. Okay. Leurs livres sont ashkénazes. Voilà ce que je voulais indiquer. Et je crois, et vous voyez à quel point l'identité sfarade, par exemple d'Amsterdam, a été convulsionnée par ce problème de maralisme. Mais je vous citerai surtout, avant Spinoza et plus exemplaire, Uriel da Costa. Lisez Uriel da Costa, vous verrez. Voilà, ce sera. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance un peu. Alors, vous voyez les trois étapes. Et nous sommes donc, selon l'analyse du Rav, à la fin de la deuxième étape, où du sein du peuple juif ressurgit, et il appelle ça Malchut Bet Yosef, ressurgit la nation d'Israël en tant que telle. Et alors nous sommes tous étourdis, tous les contemporains, étourdis, sonnés, comme on dit, je ne sais pas quoi. Je vais vous raconter une petite blague israélienne. Sonnés du phénomène, okay, éblouis au point de devenir aveugle, je ne sais pas comment expliquer. Comme si on avait reçu un coup de matraque, d'un coup, cette chose qui s'appelle le clan Israël, avec toutes ses virtualités d'avenir, apparaît. Et il apparaît, j'y insiste, parce que je crois que c'est cela qui peut nous aider à diagnostiquer que quelque chose s'est passé, se passe. Il apparaît dans la contestation universelle, dans une coalition vraiment universelle. J'ai fait allusion avant-hier soir aux ambassades des chrétiens pour Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Je me suis trompé, j'ai dit chrétien pour Israël, encore une autre genre de communauté, c'est les ambassades pour Jérusalem. Vous savez comment c'est arrivé? C'est que lorsque la Knesset a voté, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, je ne sais pas comment on dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que Jérusalem c'est la capitale d'Israël, scandale. Quoi. Comme si on allait prétendre que Paris c'est la capitale de la France, horreur. Eh bien, le monde entier a retiré ses ambassadeurs, sauf Costa Rica. Il y a une phrase, et il y a un problème en cours, peut-être le Congo belge. Ça s'appelle Zahir. Nahon. Eve Zahir Bidoaïcha. Et alors, là, il y a une phrase dans le Talmud qui n'a pas de rêve sans un détail incompréhensible. Costa Rica. Mais alors, un rêve s'est réalisé. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Toutes les nations du monde se sont retirées de Jérusalem. Sauf Costa Rica. Bon, alors, quand on entend des événements pareils, tellement énormes qu'on ne les voit plus. Tellement énormes. Bon, vous pourrez en parler très très longuement, ce n'est pas le propos aujourd'hui, ni maintenant. C'est simplement pour mettre en évidence qu'un événement massif est arrivé. Le Machar Ben Yosef est en train de sortir de ses langes, je ne sais pas comment on appelle ça, du berceau. Ça secoue le monde entier. Et c'est le temps où le juif redevient hébreu, tout simplement. Je me rappelle du temps de ma jeunesse avant la guerre mondiale. Parler de l'hébreu, ben, l'asile était tout près. Mais l'hébreu, comme langue, hein, langue morte. Nous parlions hébreu dans les familles, mais l'hébreu à l'école, l'hébreu dans la cité, l'hébreu à l'université. Et maintenant, l'hébreu, ça va se voir. L'hébreu ne serait-ce que comme langue véhiculaire de la culture des hébreux. Vous voyez, il s'est passé quelque chose de radicalement mutation. Nous sommes des mutants. Les juifs redeviennent les hébreux. Voilà la troisième période. Et ce que l'Arabe nous dit, c'est que à ce moment-là, se dévoilera le problème du conflit entre Machar ben Yosef et Machar ben David, tant qu'ils ne sont pas réconciliés. Parce que jusque-là, c'était caché. On ne fonctionnait qu'à la manière David, pas à la manière Joseph. Même si ce David savait que Joseph est là, mais il était là de façon occultée, parce que nous étions les communautés juives de la diaspora, ces juiveries géniales, mais devenues caduques, et tous les contemporains du judaïsme aujourd'hui sont témoins que toutes les juiveries sont caduques. Il n'y a pas une seule qui restait dans son ère culturelle. Tous les juifs aujourd'hui, et donnez-moi toutes les exceptions que vous voulez, on y réfléchira, se réfèrent par mémoire différée, secondarisée, à ce qu'était la juiverie cohérente de leur grand-père. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et même en Amérique, même partout. Et surtout en France. C'est un monde devenu caduque, et nous sommes contemporains de notre propre préhistoire. Ça, on ne le voit pas, parce que nous sommes contemporains de notre propre préhistoire. Et voilà le drame. Je reprends la formule du Rav, et quand ça arrivera, cette chose qui vient de ressusciter, le Keli, le véhicule qui s'appelle le Klal Israël, risque de s'autonomiser, de ne pas savoir qu'il n'est que véhicule. Et donc, c'est là que l'opposition de ce véhicule avec l'âme qu'il devait contenir se dévoile. C'est ça qui est arrivé historiquement. Je crois qu'on peut avancer maintenant.
Oui. On avait
recréé que le royaume. Par exemple, on pourrait le dire comme ça. Alors, je dois vous dire que la réalité est beaucoup plus nuancée. Une minute. C'est de telle sorte qu'il y a à Jérusalem des ambassades, je crois qu'il y en a 13, par hasard d'ailleurs, de 13 pays chrétiens, de 13 pays de chrétienté plus exactement, et pour qu'il y ait une présence symbolique de la diaspora chrétienne d'Israël, puisque la diaspora tout court des hommes, je ne parle pas des juifs, a quitté Jérusalem. Et ça va très loin, tout ça, vous comprenez. Et je dois vous dire que nous sommes, j'avais dit l'autre soir, étonnés, nous sommes impressionnés par le débordement, c'est pas du vocabulaire seulement, le débordement d'amour dans lequel il nous étouffe. On n'a aucune idée. Et bon, peut-être de ça on parlera peut-être un autre jour. Et je ne crois pas que ce soit une stratégie d'étouffement. Je ne crois pas. C'est beaucoup plus important que ça, probablement. Pardon ? Oui. Et ça ne nous rend pas inquiets pour les chrétiens. Ça nous rend inquiets pour le problème d'une rivalité de deux diasporas d'Israël, les juifs et les chrétiens de l'avenir. Vous comprenez ma question ? En tout cas, et je ne sais pas, finalement, le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il préférera choisir ? La Macbeth des chrétiens pour Israël ou la Macbeth des juifs ?
Toutes les ambassades se sortiraient, n'est-ce pas ? La communauté européenne, dont j'ai fait longtemps partie, était en train, a déjà sa représentation à Tel Aviv, elle avait concocté une antenne à Jérusalem, dans les bureaux du King David, ma femme devait y aller, je l'aurais rejointe, n'est-ce pas ? Et c'est le moment précis, et c'était symbolique, parce que 10 pays auraient été représentés à Jérusalem, et hop, c'est tombé.
Absolument.
À ce moment-là.
Absolument. Parce que nous avons un verset que je ne vous citerai pas, c'est qu'il arrivera un temps où Jérusalem sera purifiée des drapeaux des nations. Alors c'est arrivé, ils sont très pieux, ils accomplissent les versets. Bon. En tout cas, pour arriver à notre problème, c'est que la réalité est beaucoup plus nuancée, complexe. Dans cette même société des juifs redevenant hébreux et qui s'appelle Israël contemporain, et tous les niveaux déjà de l'identification, de la fusion, de l'unité des tendances apparaissent. Vous savez que si nous faisions une micro-sociologie de la société juive en général, et de la société israélienne en particulier, il faudrait presque une catégorisation par personne. Vous comprenez ? On est déjà que Joseph contre Judas, ou déjà un petit peu moins Joseph et un peu Judas. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'essaie d'exprimer tous les niveaux de nuances. Okay ? Là, ici, il s'agit de polarité. C'est pourquoi je voulais répondre à ta question, c'est que il ne s'agit pas que du royaume du Nord. Il s'agit officiellement du Royaume du Nord, mais avec dedans l'énergie du Royaume du Sud, à l'échelle des individus et de petits groupes qui commencent déjà à s'identifier au niveau de notre problème.
Israël diaspora,
Je vais essayer de vous dire quel est le paradoxe. Est-ce que vous avez entendu parler d'une revue que les élèves d'Orsay éditaient dans le temps qui s'appelait Targum? Non, personne? Quand on est mort, on est foutu. Comment vous ne connaissez pas la préhistoire de votre histoire? Bon, dans cette revue, j'avais vu paraître en ce temps-là un article qui s'appelait Judas et Joseph. Tu te rappelles? Tu l'as, toi, cet article?
Oui, en deux parties.
En deux parties. On pourrait avoir une fois une photocopie? Ah, ben, très bien. Et ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Et on fait une fois un séminaire là-dessus, peut-être, sur cet article. Enfin, on l'utilise là. Alors, j'avais indiqué une sorte de paradoxe. Une sorte de paradoxe de ce que, d'un thème très général qui revient très souvent, de complémentarité des valeurs. Tout se passe comme s'il se dévoilait dans le temps de l'histoire, si j'ai bien compris votre question, le paradoxe suivant. C'est que pour pouvoir survivre, Joseph a pris le visage de Judas, et Judas a pris le visage de Joseph. Puisque, effectivement, qui se réclame de l'identité juive en tant que spiritualité? C'est la diaspora. Je dis bien officiellement. Et qui se réclame de l'identité juive en tant que nation? C'est Israël, apparemment. Or, concrètement, c'est l'inverse. Parce que la diaspora, c'est les Juifs de Joseph, et que Israël, c'est les Juifs de Juda. Vous avez compris le problème. Alors, tout se passe comme s'il y a, là encore, un entrecroisement des valeurs, de telle sorte de construire la convergence de ce qui, si c'était que parallèle, deviendrait divergent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et alors, ça nous frappe beaucoup dans cette analyse. Ça veut dire qu'en réalité, le juif de diaspora n'est pas un Joseph pur, puisque c'est un Joseph qui se réclame de l'âme de Judas. Et le juif d'Israël n'est pas un Judas pur, puisque c'est un Judas qui se réclame de l'œuvre de Joseph. Alors tout ça est très rassurant à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, c'est des écartèlements perpétuels. C'est ce creuset d'identité que le Rav décrit en disant, et quand ça se met en place, c'est le chaos qui éclate. Et pour arriver à lire dans ce chaos les lignes de force de la remise en ordre, il nous fallait le Rav. Voilà ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une question aussi?
Ce chaos a un rapport avec les guerres de langue et magog.
Attendez voir. Tu as lu le texte à la fin? Non. Donc c'est. Bon. Non. La guerre de Gog et Magog, pas les guerres, la guerre de Gog et Magog, je vais vous en dire que deux phrases puisque tu as posé la question. Simplement pour préciser les termes, du point de vue traditionnel, vous avez la référence dans la dernière sugya du premier chapitre de Brachot. Et d'ailleurs, je vous lirai un passage du texte de Maïmonide que nous étudions dans les après-midi, puisque je l'ai là, à ce sujet. Rappelez-moi ça. On croit à tort, mais je pense que cette erreur n'est pas dans vos milieux, que c'est la guerre de Gog contre Magog, la guerre de Gog et Magog. C'est une erreur. Hein. C'est la guerre de Gog, roi de Magog, contre Israël. Et la Kabbalah a donné une allusion importante, c'est que la gamatria, la valeur numérique de Gog ou Magog, c'est 70. Ça veut dire que c'est la coalition des 70 nations contre Israël. Les kabbalistes ont trouvé. Et c'est une éventualité qui apparaît après les commencements du temps messianique. La problématique nahmanide, maïmonide, pour laquelle on a fait allusion, est-ce que c'est après Machiav ben Yosef ou après Machiav ben David ou après le premier stade de Machiav ben David? Cette problématique reste là. Parce qu'il y a différents scénarios possibles du déroulement concret de ce même programme et qui dépendent de l'état de mérite, qui dépendent de cinq causes d'ailleurs, je pense que Michel vous l'a expliqué, de cinq dimensions de mérite, mais en particulier du mérite purement et simple. Et les kabbalistes contemporains sont en perplexité sur le fait de savoir. Tenez-vous bien, si la guerre de Magog a déjà eu lieu, ou si elle n'a pas eu encore lieu. Mais, évidemment, aucun prophète ne se lèvera pour vous dire, elle a déjà eu lieu ou elle aura lieu. Et quand ?